Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, ils peuvent sonner les hautbois, elles peuvent résonner les musettes. Ce mardi 8 mai est un jour de liesse dans Popopop, bien sûr parce que c'est un jour de paix, mais aussi car nous allons célébrer un de mes héros personnels. Un homme que je place tout en haut de mon panthéon personnel. Car oui, j'ai un panthéon personnel, même qu'il est décousu et que si ça continue, on verra le trou de mon... Aujourd'hui, nous allons parler de San Antonio. Héros, s'il en est de la pop culture, le pendant, si je puis dire, sachant qu'il les avait bien accrochés, des super-héros ricains à la Superman. La différence étant que San Antonio n'avait pas besoin de Colin Mulburne et d'une cape de magicien de fête foraine pour impressionner ses jeunes filles. Non, un physique avantageux, une volonté d'airain, un sens de l'humour à l'épreuve des balles, une libido de jeune bouc adolescent, un penchant pour la cuisine roborative et les crus de Bourgogne, un respect partagé pour ses collaborateurs, y compris les plus relous, un goût inné pour l'insubordination, une hantise pathologique de la connerie, une grande méfiance pour ses congénères. Oui, San Antonio, c'est moi. Ben pardon, c'est mon héros. Et c'est avec deux de ses plus fervents représentants sur Terre, vu que lui-même a eu le mauvais goût de la quitter, que nous allons passer l'heure qui vient.
France Inter.
Popopop.
Antoine Decaune.
À mes côtés, l'incarnation de la femme avec un grand F. Celle dont était fou avec un grand F aussi, San Antonio, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, vous pouvez m'appeler Marie, deux fois.
On va donc parler de l'illustre commissaire avec l'auteur de la BD San Antonio chez les Gones, Michael Sanslaville, et l'auteur du dictionnaire amoureux de San Antonio aux bien nommées éditions Plomb, monsieur Éric Bouillet. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà pour le menu, je laisse à un autre dessinateur le soin de lancer cette émission.
Bonjour, Sébastien Vives, et pop, c'est parti.
Bastien Vives, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là?
Ah, c'est marrant, j'en ai pas assez au quotidien.
Michael Sanslaville, racontez-moi pourquoi vous n'en avez pas assez au quotidien de Bastien Vives.
Non, je plaisante évidemment. Je travaille avec Bastien Vives sur la série Last Man chez Casterman. Et c'est avant d'être un collègue, c'est un copain d'école. Donc avec qui on partage beaucoup de choses en commun, notamment des références du cinéma, de BD, de littérature.
Et une passion en dessin pour les femmes avec de gros attributs.
Tout ça, ça le regarde. Moi, j'ai un peu d'éteint sur lui, mais non, évidemment.
Bon, assez de Bastien Vives dans cette émission. Pop, c'est parti. Et messieurs, il existe ici une question qui ouvre les interrogatoires. Pop. Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi, la pop culture?
Éric Bouillet.
C'est une bonne question.
Ça veut dire culture populaire, ouais. Pop culture. Mm-hmm. Ben, je crois que dans ce que je viens d'entendre là, pour moi, le représentant de la culture populaire en littérature, en tout cas, c'est par définition Frédéric Dard, donc San Antonio. Ah oui, rien d'autre ne me vient en tête. En plus, il a traversé un demi-siècle entier, donc il a participé à tous les mouvements de pop culture à partir des années 50, ouais, j'imagine.
Ouais, ouais. On était le témoin direct.
Oui.
Très bien, Michael.
Ouais, moi, alors, je sais pas si la réponse va vous satisfaire,
mais vous le dire tout de suite. Hein.
C'est plus une image, c'est un reste d'image témoin d'une époque. Alors là, comme ça, j'ai l'image d'un commissariat américain sur Venice Beach, éclairé par un soleil couchant, quoi. Image qu'on retrouve dans beaucoup de blockbusters américains de cette période des années 90.
Ça me convient tout à fait. C'est une définition impressionniste de la pop culture. Bien avant de parler de pop, de culture et de pop culture, écoutons une nouveauté venue de la jeune américaine Janelle Monáe et le morceau s'appelle « Make Me Feel ».
Yeah. Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better.
Oh. That's just the way you make me feel.
C'est un morceau de Janelle Monáe, extrait de l'album Dirty Computer. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michael Sanslaville et d'Éric Bouillet, deux experts du commissaire San Antonio. Mais qui sont-ils? Réponse avec votre pop portrait. Alors votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rourourourou.
Oh, laissez-moi vous dire qu'il fallait bien la trempe d'un Antoine pour rassembler en ce studio aujourd'hui un médecin, humanitaire, écrivain, amoureux des mots et un jeune auteur de BD biberonné à la BD franco-belge et au blockbuster et un fan de manga de surcroît. Un Antoine beau, agile, un séducteur au verbe flamboyant, un esprit vif, un sens de la déduction qui ne l'est pas moins. Oui, je le répète, il fallait bien la force d'un Antoine pour rassembler l'auteur du Grand Cabinet des Curiosités Médicales, entre autres, et le co-auteur de Last Man et Hollywoodienne.
Non, merci, merci Charline, mais je crois que c'est quand même avant tout le travail d'une équipe. Et
je ne parlais pas de vous, Antoine Decaune, mais de San Antonio, le Antoine créé par Frédéric Dard, qui compte 174 titres vendus à 250 millions d'exemplaires. Cet Antoine-là, Michael Sanslaville, le fait revenir en bande dessinée dans San Antonio chez les Gaunes, chez Casterman, et Éric Bouillet lui a consacré un dictionnaire amoureux chez Plon. San Antonio est à l'honneur aujourd'hui. Boudez pas, Antoine, il y a de la place pour vous aussi, je veux bien éventuellement être votre Beru.
Oui, alors d'abord, vous savez ma Berthe, éventuellement. Et ensuite, vous savez pourquoi je m'appelle Antoine?
À cause de lui.
Voilà, ouais. Exactement.
Vous savez alors... ce que je mange? Je peux prétendre être Beru. Hein.
Bien, dans une émission spéciale San Antonio, posons-nous une question. Qu'est-ce que le commissaire aimerait lire, écouter, regarder? Passons donc à sa pop liste.
Pop, 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 pop.
Attention, messieurs, c'est là que ça se corse. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série à la place de San Antonio. Et c'est vous, Éric Bouillet, qui vous y collez. Michael Sanslaville, vous direz si vous validez ou non ces choix. On est d'accord?
Ça marche.
Allez.
Alors, pour la chanson, vous avez choisi Éric, Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
Strangers in the Night, un morceau sorti en 66, composé par Beth Kempfert et écrit par Charles Singleton et Eddie Snyder. Pourquoi cette chanson-là en particulier?
Eh bien, j'ai lu ça quelque part et Françoise Darme l'a confirmé qu'il adorait chanter cette chanson. Alors, il comprenait pas une parole, parce que il parlait pas anglais ou très peu, mais il a yaourté sans arrêt, ça lui plaisait beaucoup. J'aurais bien aimé l'entendre chanter Strangers in the Night.
C'est la chanson que Frédéric Dard, San Antonio, donc, aurait choisi aujourd'hui.
Oui, parce que je ne me souviens pas que San Antonio fredonne des chansons.
Non, moi non plus.
Hein mmh. Et donc, tous les choix de San Antonio, c'est les choix de Frédéric Dard, bien sûr.
Michael, ça vous va, Stranger in the Night?
Ouais, c'est pas mal.
On est raccord?
Ouais, on est raccord.
Ah, on aurait pu mettre Charles Trenet, on aurait pu mettre Aznavour, on aurait pu mettre Edith Piaf. Oui.
Bon, très bien. On est parti avec du Sinatra. Pour le film, vous avez choisi Les Grandes Gueules, réalisé par Robert Enrico, sorti en 1965. Alors, je rappelle le pitch. Hector Valentin revient dans ses Vosges natales, hérité de la Syrie familiale. Il embauche plusieurs repris de justice sans se soucier de Terrase, l'homme fort de la vallée.
Faut pas vous attendre à gagner des mille et des cents, hein. C'est 7 francs 50 mètres cubes rendus sur le bord du chemin. Ça pour la coupe. Quant au Schlita, c'est 10 francs le ster. En terrain facile et 18 francs en terrain difficile. Avec cette saloperie qui vous tuerait un homme comme un rien. Je m'appelle Laurent. Laurent Daniquière. Et moi, c'est Hector Valentin.
On aura évidemment reconnu Bourville au passage. Alors, héritier d'une Syrie, c'est une vraie Syrie, non?
Mais Frédéric Dard, il a fait 30 adaptations cinématographiques, de ses œuvres ou d'autres œuvres. Et quand je me rappelle ce film de Robert Enrico, c'est tout à fait des atmosphères qu'il aurait pu créer et des personnages qu'il aurait pu créer. Mmh. Donc, c'est un choix personnel. Hein. Je ne sais pas s'il appréciait ce film, mais je ne serais pas étonné que c'était quelque chose qui était dans sa façon de voir des intrigues, de monter des intrigues.
Michael, Les Grandes Gueules?
Ouais, ben Bourville quoi.
Ouais.
On aurait pu mettre la grande bouffe de Ferreri aussi, ça aurait pu marcher.
Pourquoi?
Bah de la bouffe et des fesses, non?
Qu'est-ce que vous racontez là?
Mais non, mais je suggère le film La Grande Bouffe de Ferreri.
Très bien, fait comme si.
Si, si, la grande bouffe, c'est.
Il y a de la bouffe et des fesses dans San Antonio.
Vous avez vu ça où, Charlie?
Bah, c'est pas dans la version de la bande dessinée de
Sauf que la grande bouffe, c'est quand même. Ça se termine mal.
Nous allons mes souvenirs y venir. Oui. Passons au livre. Et alors là, vous n'en choisissez pas un en particulier. Éric Bouillet, vous citez l'œuvre de Louis Ferdinand Céline. Et on va écouter Céline expliquer sa méthode d'écriture.
Vous avez réussi à communiquer dans le langage écrit l'émotion du langage parlé.
Oui, mais ceci ne se fait qu'au prix d'un abominable effort, parce que la feuille de papier n'a pas envie de ça. Ceci ne s'obtient qu'au prix d'un effroyable effort, qui consiste à vraiment surveiller 80 000 pages, pour le dire, faire 80 000 pages appuyées pour en arriver à faire 800 ou 1000.
C'est une interview de 1958 menée par André Parino, Louis Ferdinand Céline. Il aimait tout chez Céline?
Tout, sûrement pas. Mais il a découvert le voyage au bout de la nuit à 20 ans, un dénommé Charlex qui lui a balancé ça dans la tronche, je pourrais dire, et qui lui a dit, vas-y, belle pas avec les moutons et lis ça et tu seras plus jamais le même homme. Mmh. Et on a souvent dit que c'était l'héritier de Rabelais et de Céline, Frédéric Dard, San Antonio. Et il y a sûrement de ça. En tout cas, il en a parlé plusieurs fois, il a écrit plusieurs fois sur lui. Il a dit des choses que j'ai pas là sous les yeux, mais il a sorti quelques phrases extrêmement belles sur Céline.
Oui. En tous les cas, il y avait ce goût de bousculer la langue.
Alors, oui, de bousculer la langue, c'est sûr, puisque il a sûrement été très étonné de voir que Céline prenait une telle liberté dans l'invention des mots, et l'invention des mots, ça a caractérisé San Antonio. C'est 10 000 mots, San Antonio, nouveaux. Néologisme, à peu près, calembour, 10 000 mots. Donc, il était là dans la veine de Céline. Et puis, je pense, c'est la liberté de ton extraordinaire qu'a Céline, qui lui a fait penser que, voilà, c'était ça, la littérature, c'était la liberté.
Michael Salanville, le jeune homme que vous êtes, est tombé un jour sur Céline?
Ouais, bah évidemment, j'ai lu le voyage au bout de la nuit, parce que j'en ai entendu parler par Frédéric Dard. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez puissant. Moi, ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin, c'est une espèce de on se sert de la littérature pour cracher ce qu'on a sur le cœur, pour dépeindre un monde affreux, quoi. Et je crois qu'on connaît malheureusement les débordements de Céline. Frédéric Dard l'a fait dans le bon sens, avec toute l'œuvre de San Antonio. Pour moi, c'est un coup de poing dans la gueule. Quoi.
Ouais. Mais autre chose, hein, par rapport à Céline. D'ailleurs, il n'était pas nihiliste comme l'était Céline. Et puis, il y a le rire chez San Antonio qui n'y a pas chez Céline. Ouais. Mais ils ont en commun, en tout cas, la traque, j'entendais ça tout à l'heure, Antoine, la traque de la connerie humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment partagé et que Frédéric Dard a mené pendant 60 ans d'écriture.
Quoi. Il résume même ça d'une manière très, très simple. Il disait la chasse au con, un safari sans espoir. Une formule que j'adore. Bien, on passe de Céline au Bureau des légendes, la série française d'espionnage que vous choisissez, Éric Bouillet. C'est une série diffusée sur Canal+, depuis 2015. Bande annonce.
D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant.
Et si c'est un agent ?
0%.
Il est vivant, ils veulent négocier deux excellentes nouvelles.
Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix récupérer Malotru ?
Parce qu'il était nôtre ?
C'est une taupe.
On n'est pas en train de gérer une affaire d'otage, Marie-Jeanne. C'est un agent à nous.
Le Bureau des légendes. Alors messieurs, pourquoi est-ce que San Antonio serait devant sa télé pour regarder cette série, à votre avis ?
Alors, peut-être pas San Antonio, mais Frédéric Dard. Ouais. Parce que on a oublié de dire que c'est 100 romans, Frédéric Dard. 100 romans, à côté des 174 San Antonio. Et c'est des romans d'espionnage, c'est de ce qu'on appellerait des thrillers. Des romans noirs. Et je pense que il aurait été impressionné par le Bureau des légendes, par la qualité du scénario, parce que là, dans les Frédéric Dard, il n'y a pas de caricature. C'est vraiment le travail sur les scénarios et les personnages, la psychologie des personnages. Et moi, j'ai trouvé que dans cette série, tout ça était collé à une vérité, je pense, et extrêmement précis, et avec des dialogues magnifiques. Et lui aussi, Frédéric Dard, c'était un roi du dialogue.
Michel Salanville.
Ouais, alors moi je connais pas bien la série, mais je te fais confiance.
Tu me fais confiance, mais regarde là, tu verras. Tu repenseras.
Bien, très bien. Alors, je résume Frank Sinatra, Les Grandes Gueules, Louis Ferdinand Céline, Le Bureau des légendes, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
Strangers in the night.
Je m'appelle Laurent Danecker. Exchanging glances,
wandering in the night. Et moi c'est Victor Valentin.
Il est vivant.
Mais ceci ne se fait qu'au prix.
Ils veulent négocier deux excellentes nouvelles.
D'un abominable effort, parce que la feuille de papier n'a pas envie de ça.
Avec cette saloperie, qui vous tuerait un homme comme un rien.
Something in your eyes. Une taupe.
Nous voici dans la tête de San Antonio. Grâce à vous, messieurs. Et je vous en remercie. On va rester dans l'univers musical de San Antonio avec Serge Gainsbourg et le morceau Le Poinçonneur du Lilas, qui est, je le rappelle, une des positions du Kama Sutra minutieusement décrite dans les œuvres de San Antonio.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous. le poinçonneur des lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas, c'était en 59. Retour en 2018 sur France Inter dans cette spéciale San Antonio avec deux experts. Michael Sanlaville, auteur de la BD San Antonio chez les Gones, chez Casterman, et Éric Bouillet, auteur du dictionnaire amoureux de San Antonio chez Plon. D'abord, quelques chiffres pour savoir exactement de quoi on parle. Alors San Antonio, Charline le rappelait il y a quelques instants, c'est une série de romans policiers publiés entre 49 et 2001, 174 au total, avec 250 millions d'exemplaires vendu. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Michael, Eric, qu'est-ce que c'est que San Antonio pour vous? Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant? Eric.
Est traduit en 35 langues.
Et traduit en 35 langues.
On avait oublié de le dire.
Mais dites-le-moi en français.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu parlais tout à l'heure de l'âge auquel tu as découvert San Antonio, 14 ans, moi c'était un petit peu plus tard.
Michael, hein. Vous l'avez découvert.
Michael, hein. Oui, oui, entre 12 et 14.
Entre 12 et 14. Ouais, c'est ça, moi un petit peu plus tard, et c'est d'abord le rire. Voilà, je savais pas à 16 ans qu'on pouvait rire en lisant des bouquins, sauf Les Pieds Nickelés, mais des livres de littérature, je ne savais pas, j'aimais un peu ça, mais et là ça a été une découverte extraordinaire, puis je riais pas une fois, je riais 10 fois en lisant San Antonio. Et donc il m'a accroché là. Et puis après le génie de San Antonio, c'est de faire croire à son lecteur qu'il lui ressemble, quoi. Et sa façon de s'adresser à nous, comme si on était le seul lecteur de ses bouquins, là, il nous prenait par l'épaule et puis ou par le cou et puis c'était parti, quoi. Il nous appartenait comme on lui appartenait.
Michael, à vous.
Ouais, bah non, mais c'est pareil. C'est...
Ah, vous n'allez pas dire ça à chaque fois.
Non, c'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que dans cette même logique, moi, quand je lis un San Antonio et que je lis une enquête et que le récit s'arrête et que l'inspecteur s'adresse à moi.
Les fameuses digressions,
et qui me dit regarde ce monde pourri, regarde, c'est tous des enfoirés, enfin des trucs comme ça. Je comprends à quoi sert la littérature, l'écriture. Et moi qui dessine à côté, je me dis tiens, et si je dessinais comme ça, quoi? Et très tôt, enfin, je crois que c'est un cadeau que m'a fait ma mère, quoi, de mettre ça entre les mains.
Mais Michael, vous dites même que c'est la série de romans qui vous a donné le goût de la lecture et de la littérature.
Bah
c'est
ouais,
pas La Princesse de Clèves, quoi.
Ah voilà. Bah non, justement. Ouais. Bah non, ouais, moi je suis au grand désespoir de ma maman. Je ne lis rien quand je suis gamin. Je lis des BD. Et puis bon, bah avec la réputation que les BD ont encore quand je suis petit, je lis beaucoup de mangas. C'est le Club Dorothée, c'est machin et compagnie. Et elle sait plus quoi faire pour me donner le goût de la lecture, et puis finalement je tombe dans ce fameux carton rempli de San Antonio au grenier, quoi, et j'apprécie, j'aime l'objet, quoi. J'aime la couverture, j'aime l'objet, et du coup bah forcément de fil en aiguille j'en lis d'autres, quoi.
Donc, alors, Éric, Michael, nous sommes dans une situation assez marrante aujourd'hui, parce qu'on parle de San Antonio. J'ai à ma droite Éric Bouillet, vous êtes l'érudit, vous savez tout, vous avez fait ce dictionnaire amoureux de San Antonio qui est une œuvre ultime. Et croyez-moi, c'est un connaisseur qui vous parle. Et vous, Michael, vous adaptez San Antonio en BD, ça s'appelle San Antonio chez les Gones. Est-ce qu'on est d'accord d'abord tous ici pour dire que c'est important de relooker San Antonio, de façon à ce que les nouvelles générations y aient accès, un peu comme les Anglais ont fait avec Sherlock Holmes?
C'est important que la génération des moins de 30 ans le découvre. Le découvre parce que, moi qui le lis encore assez régulièrement, je suis fasciné de voir combien c'est d'actualité, ce qu'il raconte. Oui. Et ça n'a pas pris une ride, quoi. Il suffit de changer la voiture, de la mettre plus moderne, et puis voilà, on est tout de suite dans le dans l'actualité. Et donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas à la postérité. Mais bon, c'est normal, il faut une période, il est mort en 2000, ça va faire 20 ans, on va en reparler pour les 20 ans de sa mort, et puis je suis très confiant. Et alors, quand j'ai vu ce qu'a fait Michael, alors j'étais encore plus confiant, parce que toi, t'es un spécialiste de manga, t'as un lectorat très jeune, et là, je me dis que tu vas nous les amener à San Antonio et qu'ils vont lire des choses qu'ils n'imaginent pas.
Vous avez ce sentiment d'être un passeur aussi, d'une certaine manière?
C'est peut-être un peu prétentieux.
Non,
mais
pas du tout.
Mais j'ai envie.
Non, puisque vous aimez San Antonio, c'est pas un projet parmi d'autres.
Mais oui, je veux ça. J'ai trop envie que mon gamin il lise ça plus tard, parce que son papa dessine dessus ou des trucs comme ça, ou des gamins. Je vous disais tout à l'heure que moi je lisais rien quand j'étais gamin. Aujourd'hui, j'imagine que les gamins ils lisent encore moins. Enfin, c'est compliqué avec la toute puissance de l'image.
Ouais.
Du coup, ben, il faut les accrocher avec de l'image et remonter le moulinet.
Et quand on vous a proposé cette adaptation de San Antonio, vous avez dit oui tout de suite ou vous avez les genoux qui sont un petit peu mis à claquer quand même?
Alors, en fait, c'est moi qui ai proposé à mon éditeur, qui me demandait, qui voulait que je travaille sur plusieurs scénarios, machin, ça me plaisait pas trop. Et je lui ai dit, écoute, en rigolant, je lui ai dit, achète-moi les droits d'un San Antonio et je te le fais, quoi. Et en fait, il l'a fait, ouais. Ouais. Non, mais je pensais pas que Casterman, ils avaient Nestor Burma, c'était le fleuve, c'est tout ça. Donc, ça a été très facile.
Mais on est aussi d'accord, tous, avec l'idée qu'il n'y a rien de plus casse-gueule au monde que d'adapter du San Antonio. Enfin, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des tentatives au cinéma, par exemple.
Bah ouais.
Ça ne marche pas. Ouais. Ça marche avec vous. Ça marche en BD.
Je sais pas si ça marche, mais moi je me souviens je me souviens d'une interview de Juliette, la chanteuse qui aime beaucoup et qui dit pour elle San Antonio on ne le représente pas quoi. Si on le met en BD, on se met en vue subjective. Mais bon, c'est très très compliqué quoi. J'ai besoin de mon personnage, de le voir vivre, c'est impossible.
Alors, le narrateur, c'est le commissaire qui parle.
Bah oui, mais comme on est dans de la BD, il faut quand même que le héros prenne sa place, il prenne vie et bon, du coup, je suis parti sur un San Antonio assez idéalisé quoi, une espèce de Delon.
Et alors, comment est-ce que vous vous êtes accommodé du langage San Antonio pour la BD? Est-ce qu'il y a eu à un moment la tentation de moderniser l'argot, de le rendre plus contemporain? Vous vous êtes dit, allez, Osef, on laisse San Antonio dans son jeu?
Non, je ne me serais jamais permis ça, quoi. En plus, quand le projet est parti, j'avais un petit peu les...
Chocottes?
Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut à tout prix respecter le... Déjà, l'image prend la place du texte et je sais que c'est déjà affreux de se dire que non, on va pas pouvoir mettre tout le texte, donc autant que les dialogues soient le plus fidèle
possible. Oui, parce que San Antonio, c'est le verbe, Eric. Frédéric Tard disait, j'ai fait ma carrière avec un vocabulaire de 300 mots, tous les autres je les ai inventés.
Oui. Il charriait un peu quand même.
Bon,
le gars qui avait lu Dostoïevski à 12 ans, il avait une culture littéraire invraisemblable. Mais c'était sa façon de dire, c'était sa façon de crier sa liberté d'écriture, quoi. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il a inventé des milliers de mots, quoi. Et donc, il n'avait pas de censure là-dessus, et c'est une grande leçon, ça. Quand on commence à écrire, on a toujours peur de sortir du français classique. Ben non, il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut jeter ce qu'on a sur la table, ce qu'on a dans ses tripes, et puis se foutre de tous les académismes qui existent.
Ouais. Les créateurs ont parfois peur de leur création. Ils ont parfois peur que leur créature ne les occulte. Pensez à Jean Cocteau et Jean Marais, ou Tintin et Hergé. Lupin, Maurice Leblanc, ou Sherlock Holmes et Conan Doyle. Et voilà ce que Frédéric Dard disait en 85 à ce sujet, et donc sur sa relation avec San Antonio. Écoutez-le.
Je comprends pas que certains auteurs soient jaloux de leur créature. Moi, quand je vois que cette année, par exemple, San Antonio est entré dans le Larousse, ben je suis heureux, je biche, c'est mon enfant. Un père est heureux quand son fils réussit. Ben, j'ai fait un grand garçon qui se défend bien, ben... Je suis satisfait, quoi. On se dit, bon, bah, la suite est assurée.
La suite est assurée. Est-ce que la suite est assurée?
Ça, c'est une question très difficile, parce que je pense que... Oui, il est sincère quand il dit ça, mais il en a voulu beaucoup à San Antonio. Parce qu'il avait une ambition littéraire formidable. Ah, il a écrit son premier livre à 17 ans.
Il voulait être Simenon.
Plus que Simenon. Plus que Simenon. Ouais. Oui, 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 oui. Enfin bon, il voulait être en tout cas un auteur classique reconnu pour la qualité de ses romans classiques. Et puis Sant'Antonio a tout bouffé. Tout bouffé et est resté, malgré tout, malgré les critiques élogieuses de toute l'intelligentsia, c'est resté de la littérature de gare jusqu'au dernier jour, et encore aujourd'hui. Mmh. Parce que il faut en lire beaucoup pour comprendre ce qu'il y a derrière les Sant'Antonio, pour comprendre que toute une philosophie, un humanisme, ce que tu disais tout à l'heure, il y a une leçon de vie, il y a une leçon sur la condition humaine, il y a une réflexion sur sa propre vie à lui et sur la vie des autres. Mmh.
Alors, pour paraphraser Gabin, ce qui me semble pas être complètement aberrant aujourd'hui, qui disait qu'un bon film, c'est avant tout une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Pour vous, un bon Sant'Antonio, c'est
de la bouffe et du cul.
Ah bah voilà, voilà, on dit bien.
C'est ce que j'ai dit.
Non, Michael, par exemple, le choix d'adapter Sant'Antonio chez les Gones.
Mais alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, ce qui me plaît dans Sant'Antonio, c'est les enquêtes les moins bien ficelées. Mm-hmm. C'est justement parce que c'est le bouquin où on sent que Sant'Antonio, sa galerie de personnages, enfin l'histoire est un prétexte. Mmh. Peu importe, il bricole une enquête de vol de diamants, je sais pas quoi, machin. Mais il met en scène ses personnages, il adore ses personnages, il adore digresser sur la bêtise, sur la connerie et tout ça. Et c'est pour ça qu'on ouvre un Sant'Antonio. Mmh. Alors évidemment, il y a des enquêtes qui sont fabuleuses dans la tripotée de bouquins qu'il a écrits. Mais
moi, je serais tenté quand même de dire que voilà, ça a commencé en 1949, ça s'est terminé en 2001, qu'il n'y a pas un Sant'Antonio, mais des Sant'Antonio. Qui en fait, parce que les livres suivent, il y en avait quatre par an, tous les trimestres, et on a vraiment le sentiment que les livres suivent toutes ces variations psychiques.
Ouais, c'est vrai.
Et c'était un joyeux dépressif quand même.
Exactement.
Cet homme-là.
Un grand maniaco-dépressif, bipolaire. Mmh. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il a fait deux œuvres qu'on pourrait appeler une œuvre bipolaire. Mmh. Hein, les Frédéric Dard, les 100 Frédéric Dard et les 174 Sant'Antonio, ça n'a rien à voir. Il y a le côté noir des Frédéric Dard, et puis d'un côté, il y a le côté exubérant des Sant'Antonio. C'est formidable. Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature mondiale, je ne crois pas.
Non, mais il se sert de son héros pour se raconter lui-même. Quoi.
Oui, vous êtes client de tout.
Ah, moi, je suis client de tout, ouais, évidemment. En fait, je sais pas, peut-être les tout premiers. Il faut lancer une série, c'est normal de construire son personnage. Les tout premiers, c'est un James Bond. Mm-hmm. Mais très vite, il y a Beru qui arrive, très vite, ça part dans tous les sens. Et, c'est la folie, quoi.
Bon.
Oui, Charlie. Justement, le titre.
Vous voulez parler de bouffe et de.
Non, je voudrais parler de titre. Je ne suis pas que bouffe et cul, je suis également littérature. Le titre de la BD Sant'Antonio chez les Gones, c'est l'un des plus sobres, en fait, hein, comparativement à, par exemple, Du plomb dans les tripes, J'ai bien l'honneur de vous buter, Du poulet au menu, La rate au courbouillon, Ménage tes méninges, ou encore Mets ton doigt où j'ai mon doigt, qui a mes faveurs perso. Quel est, vous, votre titre préféré? Celui que vous trouvez vraiment qui claque le plus, le mieux trouvé?
Messieurs les hommes.
Quel?
Valser Poufias.
Ah ben voilà, ça fait le pendant, c'est très bien.
Je trouve mignon.
Ah oui. Mais attends, en disant ça, on va le faire passer pour un affreux macho, mais alors qu'il n'y avait pas un homme qui aimait plus les femmes. Mmh. Et Sant'Antonio, bien sûr qu'il adore les femmes. Il en tue de temps en temps des vieilles salopes. Mais dans l'ensemble, il les adore et c'est aux hommes qu'il en veut, c'est pas aux femmes.
Puis attends, Sant'Antonio, c'est un vieux garçon qui vit dans les jupes de sa maman.
Oh, attention, nous arrivons sur un terrain glissant. Voilà. Et moi, personne ne me demande quel est mon titre préféré.
Quel est votre titre préféré, Antoine?
Bouge ton pied, que je vois la mer.
Bah, attendez.
Non, c'est le titre.
Ah, pardon.
Non, vous pouvez laisser votre pied. Messieurs, petite pause dans cette conversation autour de Sant'Antonio. Est-ce que vous savez faire ça? Eric, Michael, parfait.
Pas mal.
Ah, parfait. Ah, j'ai des invités de choix aujourd'hui, mais c'est juste pour lancer les pop news.
Et dès demain dans les kiosques, un livre hors série Rockyrama consacré à un film mythique que les mélomanes auront identifié par sa non moins mythique BO signée John Williams, Jurassic Park. Alors je dis bien Park, pas World. Le tout premier, l'original, celui de 93, signé Steven Spielberg. 200 pages consacrées à cette monomanie dinosaure et à un grand réal. Au menu, une histoire des dinos au cinéma, un long et chouette portrait de Spielberg, un autre de Michael Crichton, son scénariste, la saga ILM, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas, l'histoire du casting, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jurassic Park sans jamais oser le demander. C'est dans ce hors-série signé Nico Pratt. C'est accessible sur le site de Rockyrama et dans les kiosques dès demain. Et ce sera en librairie le 23 mai.
pop.
Depuis le temps qu'on nous répète que Winter is coming, c'est bientôt l'été, et par la même l'occasion d'assouvir sa passion pour les trônes, les dragons et autres décapitations. À partir du 1er juin et jusqu'au 2 septembre, rendez-vous à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris, donc, pour Game of Thrones, The Touring Exhibition, une expo interactive qui vous cultivera, vous réjouira et empêchera quiconque de vous dire
« You know nothing, Jon Snow ».
Mise en vente des billets mardi prochain.
Et il n'y a pas qu'Arctic Monkeys à Sheffield, je sais, ça peut choquer. Un autre duo bien rock vient de sortir un titre qui décoiffe, comme on dit, nous les jeunes encore pourvus de cheveux. Il s'appelle Drenge, nom derrière lequel se cachent les frères Loveless. Et leur nouveau titre, c'est This Dance. Je ne sais pas encore trop quelle choré adopter sur ce This Dance, mais je m'entraîne.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est merci, vous, effectivement. Je vous le confirme.
Michael, sans la ville, Eric Bouillet. On reste avec sa retenue dans la pop culture, avec le chanteur Philippe Nico, qui s'est mis dans la peau de l'inspecteur avec le morceau « J'aime ou j'emmerde ».
San Antonio parle aux Français.
Faut toujours emmerder les gens qui veulent avoir raison. Voilà une tactique infaillible, la position de repli suprême. La seule véritable force de votre San Antonio, c'est qu'il emmerde d'instinct et profondément, avec une rare ferveur, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça me permet de ne pas entretenir de vilaines rancunes, de rester propre du dedans. J'aime ou j'emmerde. La plupart de mes contemporains aiment ou détestent, moi pas. J'aime ou j'emmerde. Hey, il faut mobiliser sa bile. Tandis qu'emmerder vous laisse paisible. Ça vous préserve des autres et de vous-même. Bref, c'est une forme de sagesse, car il faut dans le fond une belle sérénité d'âme pour emmerder les gens.
Antoine Decaune sur France Inter.
Qui vous emmerde.
Philippe Nico, j'aime ou j'emmerde, c'est un vieux morceau.
Bon sens de l'accueil,
oui.
En tout cas.
Oui, c'est un bon sens de l'accueil. Tiens, je vous laisse reprendre la main, allez-y.
Michael Salonville, oui, comment est-ce que vous avez choisi dans toute la San Antoniothèque le roman que vous alliez adapter en bande dessinée?
En fait, c'est simple, c'est que moi je suis lyonnais d'origine.
Ouais.
Les Gones, les Titi lyonnais, et que Frédéric Dard a vécu à Lyon longtemps, il est de la région, il est de Jallieu, Bourgoin-Jallieu. Mmh. Et c'était un clin d'œil sympathique pour commencer la série.
Où il est enterré d'ailleurs?
À Saint-Chef.
Non. À Saint-Chef, vous avez raison.
Oui,
ouais, d'accord. Le prochain, parce que celui-là c'est le premier, San Antonio chez les Gones, mais la suite, vous avez choisi d'adapter Si ma tante en avait, c'est bien
voilà,
ça?
Voilà, tout à fait. Une histoire qui se déroule en Bretagne, mmh, et que je suis en train de préparer aux petits oignons.
Que se passerait-il d'ailleurs si votre tante en avait?
C'est une sombre affaire de cargo russe.
Mmh. Non, c'est une question plus personnelle que je vous posais.
Ah, d'accord.
ce serait techniquement votre oncle. Je pense que c'était ça la réponse que vous attendiez. Dans celui qui est déjà disponible, San Antonio chez les Gones, on croise un pharmacien ressemblant étrangement à Depardieu, mmh, un partouzeur qui a les traits de DSK, ou encore un inspecteur d'école effrayant comme Zemmour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ces petites incursions du réel dans l'univers de San Antonio?
Bon, c'est ce que je répète souvent, c'est que moi je suis aussi, en plus d'être un fan de manga, de films américains, je suis aussi l'héritier
de l'école... Fan de Zemmour ?
Non, de Maurice, de Goscinny, oui. De toute l'école de Marcinelle, et donc la caricature, moi j'adore ça, et justement, là où un Uderzo, il caricaturait, il injectait des petits personnages à des têtes... assez célèbre. Moi, je reprends ça, mais je me permets aussi des têtes grinçantes.
Éric Bouillet, on a parlé des adaptations cinéma assez malheureuses, hein, en règle générale, de San Antonio.
Mais de San Antonio, oui.
Oui, de San Antonio, oui. Mais il y a eu des, il y a eu beaucoup de dessinateurs qui se sont penchés sur San Antonio, à commencer par Dubout.
Voilà.
Évidemment.
Et Dubout, il avait un univers qui était très proche de l'univers de San Antonio. Et je trouve que dans l'illustration des San Antonio, l'illustration des romans, hein, il y avait que quelques dessins, voilà, ils avaient deux univers très proches. Il y a eu bien sûr bien d'autres BD avant toi, oui. Michael, hein, il y a un dénommé Blanc qui a pendant 15 ans a fait des BD dans France Soir. Et puis il y a eu Desclée, qui est toujours vivant, qui est au Canada, qui a fait 7 ou 8 BD adaptés par le fils de Frédéric Dard, Patrice Dard, celui qui a poursuivi l'œuvre de San Antonio jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et donc tu es l'héritier aussi de ces gens-là et surtout de Dubout, c'était pas facile, mais écoute, je vais te dire une vacherie et une gentillesse. La vacherie, c'est que forcément, moi, depuis le premier jour, j'ai en tête des personnages et je peux les retrouver nulle part. Et en revanche, la gentillesse, je te dis très sincèrement que depuis Dubout, j'avais pas trouvé un dessin qui correspondait à l'univers.
Merci.
Et là, tu tapes dedans. J'espère que c'est un beau compliment pour toi, parce que Dubout, tu sais, c'est un géant.
Non, mais je suis fan de Dubout, mais évidemment, c'est un dessin, c'est une autre époque. Moi, j'ai grandi avec d'autres codes, et j'ai été très influencé par une imagerie très violente quand j'étais gamin. Du coup, ça a créé ça. J'aime bien dire ça, mais je suis une espèce d'hybride du dessin, quoi. Mm-hmm. J'ai l'impression de travailler, en toute modestie, comme Frédéric Dard travaillait avec son personnage, quoi.
Je précise pour Charline, quand on parle de Dubout, c'est Jean-Jacques Dubout, le mari de Chantal Goya.
Oui.
Et ben alors, puisqu'on parle de dessin, il y a le risque de passer pour une obsédée, mais bon, ce ne sera pas la première fois. Michael, qui avez-vous pris le plus de plaisir à croquer, l'énorme Beru tout en gras et tache de vin, ou les créatures à petits culs et gros seins qui peuplent les aventures du commissaire?
Non, mais c'est vraiment pas...
non,
pour moi, tout ça,
c'est moche, hein.
Ouais.
Mais pouvez répondre.
Ben non, c'est Beru, évidemment. Beru, ouais. c'est le personnage rassurant, c'est le colosse, c'est le nounours. San Antonio, plus difficile, parce qu'il faut qu'il soit élégant, beau.
Il est très delonien, hein, votre San Antonio.
Bah ouais, il me fallait, je sais plus, j'ai entendu il y a pas très longtemps, je crois que c'est chez vous d'ailleurs, quelqu'un qui disait qu'à une époque, les gens allaient au cinéma et regardaient des films avec Delon. Quoi. Mmh. Et moi, j'ai bien aimé cette définition du cinéma populaire. On allait voir des films quand même, il a quand même fait des très bons films. Je sais pas, moi, j'ai découvert la beauté du personnage. Du personnage.
Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre de nouveau la voix du maître, Frédéric Dard, qui raconte comment s'est déroulée sa toute première publication. Un vrai espoir, écoutez bien, pour tous les écrivains en devenir.
J'ai écrit cette nouvelle, donc, à un exemplaire. J'avais, je sais pas, 14 ans, un truc comme ça. Et je l'ai envoyé au journal de Mickey. Eh bien, mon cher ami, la semaine qui a suivi, elle est parue, cette nouvelle. Ça a été pour moi un des plus grands chocs de ma vie littéraire, de ma vie de romancier. C'est que cette nouvelle écrite à la main, envoyée comme ça, très 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 vite, cette nouvelle est parue.
Cet extrait du documentaire Frédéric Dard, Mémoire d'un obsédé, textuel. Et en fait, on peut dire que la boucle est bouclée, puisqu'il envoie cette nouvelle au journal de Mickey, un journal de bande dessinée donc, et aujourd'hui il se retrouve à son tour en bande dessinée avec ses livres adaptés.
Ouais, c'est rigolo.
Non.
Ouais, non, c'est...
Éric Bouillet, on ne peut s'empêcher de constater que dans votre dictionnaire amoureux, remarquable ouvrage, je le répète, il n'y a rien à la lettre Z, qui est pourtant une lettre assez tentante.
Oui.
Ça s'appelle la Zigounette.
Oui, mais j'ai fait quand
et
même...
Et c'est moi qui suis obsédé.
J'ai un
expliquez-nous
article.
Expliquez-nous ça.
J'ai écrit un article qui s'appelle Le Fifrelo.
Oui.
Parce que je trouvais, c'est un des, je ne sais pas, 200 peut-être synonymes de nos attributs masculins, le Fifrelo, dont il parle beaucoup parce que Béru a des attributs hors normes.
Hors normes.
Et à Fifrelo, j'ai donné, je crois, 25 équivalents que j'ai trouvés dans les Saint-Antonio, pareil, de nos attributs, commençant par la lettre Z. Mmh. Uniquement la lettre Z. Mmh. Dont la zigounette, bien sûr, je l'ai pas, je ne peux pas retenir tout, mais c'est pour vous dire la production littéraire dans ce genre de domaine.
Éric, je m'adresse à l'homme qui sait tout, absolument tout, sur Saint-Antonio Messi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui nous écoutent aujourd'hui, si on ne devait en lire qu'un pour rentrer dans l'univers de Saint-Antonio, lequel serait-ce ?
Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas 174 Saint-Antonio, il n'y en a qu'un qui commence au premier en 49 et qui se termine. Hein, c'est un peu vrai, donc ce serait une drôle de façon de répondre. On m'a déjà posé la question et maintenant je dis, si vous voulez connaître Saint-Antonio, commencez par lire un Frédéric Dard. Parce que quand vous verrez, je peux en citer bien sûr plein, quand vous verrez la qualité de cet auteur classique, vous vous direz, ce gars qui a été capable de faire ça, dans la gaudriole, il a fait sûrement quelque chose d'exceptionnel. Ah bah, quand même, pour répondre, moi, il y en a un que j'adore, ça va sembler très étrange, il n'y a pas Saint-Antonio. Dans les 174, c'est le seul où il n'y a pas le commissaire, ça s'appelle « Les cochons sont lâchés ». Et il n'y a rien à faire, je me le relis comme une espèce de drogue tous les ans et je pars de rire, je connais tout par cœur et je ne peux pas m'empêcher de rire.
Michael ?
Ouais, moi, ce serait « Les cons ». C'est un hors-série,
oui.
qui est balèze, mais qui résume vraiment l'aboutissement de son travail. C'est un récit qui est entrecoupé de feuillets jaunes et qui parle de la connerie, de la bêtise, de ses expériences enfants. Et pour moi, c'est ça, c'est très clair. À quelqu'un qui ne connaîtrait pas, je dirais, découvre par celui-là.
Écoutez, pour moi, je sais que personne ne me pose la question.
Antoine, pour vous, ce serait quel roman ?
Merci, Charline. Moi, je choisirais « Ça ne s'invente pas ». Une aventure qui se passe en Inde, où il fait la rencontre de la princesse Savage et Jouy, et qui est un texte qui, pareil, à chaque fois me laisse pantois. Bien, nous avons fait notre tour de table.
Oui, je crois.
Oui, merci. Mais dites-moi, mais c'est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Ah, cette trappe. Mais c'est quoi cette musique ? Ah mais oui, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Ah bah ça c'est pratique, alors j'ai juste à soulever la trappe pour arriver sur le tapis rouge. Avec les grèves de train, ça, c'est quand même pas mal. Hein. Mais qu'est-ce qui arrive là ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah mais oui, bien sûr ! C'est le Festival de Cannes ! Oh bah elles sont nombreuses, hein ! Oh là là, avec des belles robes, des petits brushings. Pardon, pardon mademoiselle. Pardon, oui, pardon. Excusez-moi. Pardon, pardon, madame. Pardon, pardon, pardon. Je dois aller chercher le dernier vinyle de l'émission. Non, mais j'arriverai jamais à traverser. Bon, allez, balancez le morceau là-haut. Allez-y. Like the way you walk.
Creedence Clearwater Revival, Suzy Q, c'est un morceau de 1968. Éric Bouillet, Michael Sanlaville, l'émission touche à sa fin, mais nous avons un rendez-vous récurrent. Je vais vous laisser la dernière minute de cette émission pour débattre, discuter et même vous affronter si vous le souhaitez sur un ring virtuel de pop culture, c'est le Pop Ring. Attention, question du jour, parlez-vous le San Antonio. Que veut dire ? Vous êtes prêts ?
Allons-y.
Se débonder, c'est cage à miel.
Ouais. Cure les oreilles.
Bah, il a gagné.
On est d'accord ?
Oui, oui, okay. Oui. Les cages à miel, ça peut être ça. Hein.
Vous avez raison tous les deux. Ouais, deuxième question. Que veut dire tricoter des cache-nez en poils de triangle ?
Ah, ce serait quoi ? Un cunilingus ?
Bien ! Avantage, Eric. Et la troisième question. Alors attendez, parce que celle-là, elle est gratinée. De quel pays imaginaire Mécouillambar est-il la capitale ?
Mécouillambar.
Ah, c'est pas lequel saltan, c'est pas mes couilles en barre, c'est...
Oh là là.
Oh là 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 là.
Si, c'est un truc en an, là.
Hein oh, c'est en Amérique du Sud ?
Non.
Non, non.
Mes couilles en barre. Mes couilles en barre.
Ah, je m'en veux de pas...
Ah ouais, ouais, moi aussi.
Moi, je suis juste en train d'imaginer la personne qui vient d'allumer son poste ouais, à ce moment et t'entends mes couilles en barre, mes couilles en barre.
Oui, nous cherchons de quel pays imaginaire mes couilles en barre est-il la capitale dans un des ouvrages de San Antonio. Ah, eh bien, c'est le Tatmaziz. Voilà, merci Mickaël.
C'était évident en plus, c'était évident.
Merci beaucoup.
Votre BD San Antonio chez Legon est édité chez Casterman. Elle est chaudement recommandée, ainsi que votre livre Éric Bouillet, votre dictionnaire amoureux de San Antonio, lui édité chez Plomb. Merci messieurs d'être venus dans ce studio.
Merci
à l'équipe de Pop à Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Maximin Grand, Aurélien Esvin, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Restat, notre stagiaire. Demain dans Pop à Pop, une émission spéciale Kids avec le chanteur Aldebert et l'auteur de la BD Mortelle Adèle. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr et si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yves à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos beauté sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast.
Oh, ça c'est Berthe.